à tous et bienvenue sur Estasia.fr pour notre 29e podcast consacré au cinéma japonais à l'occasion du 10e festival du cinéma japonais contemporain de Kinotayo qui s'est tenu à Paris, au Gaumont Opéra à la Maison de la Culture du Japon fin novembre, début décembre et qui se poursuit en province jusqu'en février. L'occasion de faire un point sur l'état du cinéma japonais aujourd'hui. Ce que nous allons faire en commençant par un tour de table dans lequel chaque intervenant de ce podcast spécial va livrer en introduction ses impressions sur le cinéma aujourd'hui. Qui veut commencer ? Martin.
Avec des pierres dans la main.
D'accord. Les cacahuètes font partie intégrante du podcast. Donc Martin, quelles sont en quelques phrases tes impressions sur l'année du cinéma japonais qui s'est écoulée ?
Alors, autant ce qu'on a pu voir cette année entre les quelques gros films, c'est-à-dire le Kawase qui sera finalement distribué en début d'année prochaine, ou le Koreeda et le Kyoshi Kurosawa. Bon, voilà, en tout cas, ils sont rodés, ils font un cinéma qui s'exporte très bien, qui est encore bien ficelé. On voit qu'ils sont pas à bout de souffle, donc c'est plutôt rassurant là-dessus. Maintenant, Kinotayo nous a permis aussi de prendre un peu le pouls du cinéma indépendant japonais. Surtout que cette année, il a été plutôt prolifique. Je crois qu'on comptait quelque chose comme 600 productions qui ont été distribuées sur la péninsule, donc c'était un peu un chiffre record. Et sur tout ce qui a été proposé, en tout cas, ils ont fait une sélection d'une dizaine de films. Et il est fin de constater qu'ils se portent plutôt bien, quoi. L'ensemble de la sélection, en tout cas, était bien meilleur que l'année précédente. Et on a pu voir quelques petites perles, donc on en reparlera tout à l'heure.
On en reparlera également. Mais c'est vrai que c'est amusant que les films que tu cites soient... sur la distribution, Koreeda, Kawase, Kurosawa, des films qu'on a pu voir à Cannes, donc qui restent pour le grand public ce qui est encore le cinéma japonais d'aujourd'hui. Nicolas, quelles sont tes impressions sur l'année du cinéma japonais?
Quoi, dans la continuité de ce qu'a dit Martin, et surtout par rapport à, si je me réfère à l'interview qu'on avait eue de Koreeda, où justement on lui avait demandé, lui, comment son cinéma était encore reçu dans son pays. Et d'après ce qu'il nous a dit, c'est pas du tout la même manière qu'il est reçu ici en France et à l'international par rapport à la manière dont il est reçu dans son pays. Et donc voilà, en fait, ce que j'ai l'impression, moi, par rapport à ce qu'il m'a dit et par rapport à ce que je ressens en ayant vu des films à Kinotayo, on a vu les derniers films de Koreeda, de Kurosawa et tout ça, c'est qu'il y a vraiment une espèce de scission en fait entre la nouvelle vague de réalisateurs japonais dans le cinéma indépendant, d'un côté, les gros blockbusters, adaptations de manga. Malheureusement, on ne voit pas tous, enfin, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent en France. Ils arriveront peut-être dans les années à venir. Ouais, c'est de plus en plus rare. Mais bon, d'après les retours qu'on a de ces films-là, ce n'est pas forcément des films de qualité, malheureusement. Même s'il doit y en avoir peut-être dans l'eau aussi, qui sont bien. Et puis d'un côté, il y a ces cinéastes, en troisième partie, ces cinéastes-là, Kawase, Koreeda, qui là-bas, apparemment, d'après ce que nous a dit Koreeda, sont pas forcément, enfin ils sont presque, ils sont pas du tout populaires par rapport au jeune public ou tout ça, alors qu'ici en France ils sont beaucoup plus populaires que justement le cinéma indépendant japonais qui ne peut être visible que par l'intermédiaire de Kinotayo ou des festivals comme ça,
ou quelques festivals.
Je tiens juste à rappeler une chose, c'est que les Days of Tokyo qui sort donc en janvier 2016 a été le plus gros succès de Kawase au box-office japonais. Le sujet est dense,
c'est un thème très
attachant, ça parle de la cuisine, donc forcément...
En général, pas forcément l'ordre du film.
C'est vrai que c'est un peu idem pour Koreeda, donc on va peut-être tempérer aussi, on va voir comment tempérer cette dichotomie entre le cinéma d'un côté indépendant et le cinéma qui peut marcher au Japon, puisque le Koreeda, notre petite sœur, a plutôt bien marché, c'est un cinéaste qui est quand même... relativement reconnu au Japon.
Il est reconnu, mais pas forcément auprès des jeunes, comme je disais.
C'est pas un grand...
C'est pas forcément reconnu auprès des jeunes chez nous non plus.
Chez nous non plus. C'est pas forcément le grand public qui se déplace pour Koreeda. Oui. Donc il y a une perception un peu différente. Je pense qu'on l'a vu avec des films du milieu, on va dire, entre guillemets, comme 100 Yen Love, dont on va parler, vu qu'il était présent à Kinotayo, que le Japon envoie pour représenter donc le pays aux Oscars. Donc c'est aussi ce cinéma un peu intermédiaire que le Japon essaye de mettre en avant entre un cinéma indépendant complètement fauché et des blockbusters type
Tu penses à Arman en disant ça ou...
Peut-être à d'autres films dont on va parler pendant le podcast. Nous accueillons ce soir pour la première fois donc Kefren. Bonjour Kefren. Donc je te pose la même question. Quel est un peu ton ressenti sur l'état du cinéma japonais aujourd'hui?
Bah moi je crois que les grands auteurs consacrés à la fin des années 90 sont toujours d'actualité, comme le rappelait Martin et Nicolas, Koreeda, Kawase, etc. Mais qu'il y a un fossé spécialement en Occident sur les nouveaux auteurs, justement, qui ont du mal, comme Fukuda qui a sorti Au revoir l'été l'année dernière, qui a sorti un nouveau film à la fin de l'année et dont on n'entend pas parler du tout en Occident,
aussi, ouais.
Et qui pourtant a des retours assez positifs des gens qui l'ont vu. Ou même le cinéma de genre qui, à la fin justement des années 90, a consacré pas mal de réalisateurs qui sont aujourd'hui, qui font référence dans le milieu de la J-horreur, etc., comme Nakata et Kiyoshi Kurosawa. Et qui a totalement disparu, alors que pourtant il existe une nouvelle résurgence de la J-horreur avec des cinéastes comme Maria Sato ou je sais pas, enfin le réalisateur de Ju-On, The Beginning of the End, qui est sorti l'année dernière et dont t'as entendu parler, et qui pourtant offre une nouvelle vision de la J-horreur et la modernise, tout comme les nouveaux cinéastes indépendants donnent une nouvelle vision du Japon qui ne nous atteint pas, et même au Japon, qui ne fonctionne pas.
Alors ça, c'est peut-être aussi un défaut de distribution, d'édition en France, hein, et de regard critique, parce que finalement, il y a peu de critiques, peut-être, qui parlent de ces films, qui ne nous arrivent pas aussi facilement que voilà, les films qui sont distribués en salle. Sidi, toi, quel est ton ressenti sur le cinéma japonais d'aujourd'hui ?
Alors d'aujourd'hui, en tout cas de cette année 2015, je t'avoue que j'en ai vu très peu. J'ai vu le Kurosawa, que j'ai trouvé agréable sans être vraiment touché. Oui, c'est vrai qu'ils sont toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'on peut difficilement dire que... voilà, on parlait il y a quelques mois du statut un peu particulier de Takashi Kitano qui a perdu beaucoup de sa superbe auprès de la cinéphilie qui le consacrait il y a encore 10 ans. Là où je crois que Kurosawa a quand même réussi à garder le cap. Je ne saurais pas trop dire pourquoi d'ailleurs. C'est vrai qu'il est très productif, il n'a jamais vraiment cessé de tourner.
Mais je trouve même,
Nicolas,
que Kurosawa a gagné en popularité en France. C'est-à-dire que même du temps où il avait sorti peut-être Kero, les films comme ça, il était peut-être pas aussi populaire qu'il l'est maintenant avec ses derniers films, je trouve.
Prochain film, c'est La femme de la plaque argentique, et d'une production française qu'il a tourné en France. Donc c'est vrai qu'on garde quand même cet amour pour les cinéastes des années 90 d'une certaine manière.
Et c'est vrai que cette année, l'année dernière, on avait beaucoup parlé d'au moins deux grands films d'animation. Les derniers Takahata et Miyazaki qui figuraient clairement pour nous parmi les grands films de l'année. J'ai l'impression que cette année on a eu un peu moins de coups de cœur francs à ce niveau là
2016 au risque d'en avoir un.
Oui. Au début, ouais. Déjà
il y a le garçon et la bête de Mamoru Hosoda qui arrive très bientôt, mais il ne faut surtout pas l'oublier.
Mais il y a une relève, donc voilà, ils sont peut-être pas encore au niveau de leurs aînés. Mais en tout cas, voilà, ils produisent quand même des films qui sont très très intéressants, ils apportent une nouvelle grammaire dans la mise en scène, des films d'animation, leur graphisme se détache vraiment de leurs aînés. Donc il faut pas s'inquiéter de ce côté-là. Je pense que voilà, il y a des très très belles choses à découvrir dans les futures années, quoi.
C'est vrai qu'on arrive peut-être à une année une période de transition entre la fin de Ghibli d'un côté et l'émergence de cinéastes qui sont là depuis quelques temps, hein, Kichiro ou Hosoda, ils ont commencé dans les années 90.
Il y a aussi le nouveau Makoto Shinkai, justement.
Voilà, c'est la même chose. Et donc on arrive dans cette période à l'entre-deux où ces cinéastes ne sont pas encore reconnus en tant que grands auteurs et où la génération précédente arrête de faire des films. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait faire un podcast spécial sur l'animation japonaise et sur son état pour pouvoir arriver à démêler un peu les films de ce qui se passe au Japon. Justin, toi, quel est ton ressenti sur l'année du cinéma japonais?
Je suis un peu d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que tant au niveau des grands auteurs emblématiques qui sont apparus depuis 10-15 ans, on a quand même eu des bonnes choses qui sont sorties. Et puis si on se base sur Kino Taiyo aussi, dans l'émergence de nouveaux cinéastes, encore que parfois il y a des films dont des auteurs dont on n'a jamais entendu parler, mais qui ont des grosses filmos déjà... auxquels on n'a pas eu accès. Il y a pas mal de choses qui nous semblent nouvelles, mais il y a des cinéastes qui Bon, je crois qu'il y avait une interview de réalisateur de Kino Taio, il avait fait 40 films avant. Puis bon, nous, pour nous, c'est une nouveauté, donc c'est peut-être un problème, comme on disait.
C'est l'auteur de Kabukicho Botan.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Là, quand on parle de 600 films qui sortent au Japon annuellement, c'est vrai que nous, on a accès à une centaine de films.
Ouais, c'était Arada qui a réalisé Kakekomi, et donc bon, voilà, Kakekomi. C'est aussi un cinéaste qui est très très important au Japon, quoi. Et pourtant, c'est un film qui a été, enfin, c'est un cinéaste qui a été plébiscité à la fin des années 90, début 2000, par une certaine presse. Enfin, je me souviens des articles qui étaient publiés dans le Cinépage ou dans HK Magazine, où il disait attention, ce mec-là, c'est un type qu'il faut vraiment suivre, quoi. Et voilà, Kamikaze Taxi, c'est un très très grand film. Il y avait une première rétrospective qui a été faite à l'étrange festival, c'était en 2002-2003. On a pu voir un panel de ses premiers films et on se disait, mais voilà, qu'est-ce que les distributeurs attendent?
Et c'est ils sont jamais pris. La critique qui n'a pas mis en avant comme ça avait pu être le cas dans les années 90, où quand même pas, ils ont peut-être incité parfois les distributeurs en parlant de certains films. Alors que là,
mais pourquoi c'est retombé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une telle indifférence, enfin relative indifférence?
Manque de curiosité.
Manque de curiosité, et puis ils sont peut-être conseillés trop japonais et pas assez exportables pour un public.
Bah pourtant, ils ont sorti à l'époque du Tsukamoto, ça ressemblait à rien de ce qu'on a pu voir.
Oui, c'est comme une branche, enfin c'est un genre très précis, quoi. Donc voilà, c'est cyberpunk.
Mais même ce genre, et ces cinéastes, bon, ils ont un peu changé de genre, on en parlait avec Tsukamoto, ne marche plus en France. Je pense que c'est juste une. Il y a eu un gros effet de mode, mais ça, on y revient.
Parce qu'il a disparu des radars,
au début des années 2000, et finalement, l'intérêt du très grand public s'est un peu perdu. Donc, nous, en tant que cinéphiles, on continue à suivre ces cinéastes.
Mais Tsukamoto, c'est clair, c'est que le jour où Dionne a arrêté de distribuer les films, Tsukamoto, plus personne s'en est occupé, quoi. Donc voilà, c'est lui qui le portait à bout de bras, qui
l'a présenté des défricheurs.
Voilà, c'est des défricheurs, exactement. Je pense qu'il y a un problème là-dessus. Mais je pense qu'il y a aussi un manque d'intérêt de la part du public aujourd'hui qui est un peu fainéant.
Il suffirait d'être incité quelques textes élogieux. Parce qu'à l'époque, franchement, les.
Moi, je crois que c'est parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, justement. Enfin, aujourd'hui, il y a les cahiers positifs, etc. Alors que dans les années 90, il y avait HK, Starfix ou des choses comme ça qui justement mettaient en avant ce cinéma contre les cahiers du cinéma et positifs et Télérama, etc. Et aujourd'hui, ce contre-pouvoir-là a disparu ou c'est justement fait phagocyté par les cahiers du cinéma.
Ils sont beaucoup plus nuancés dans la manière de.
Et dans les cahiers, il y a en gros un spécialiste du cinéma.
Stéphane Dumanildo.
Mais qui est amateur d'un certain cinéma.
Elvire, on va clôturer cette table ronde introductive par Elvire. Donc toi, quel est ton ressenti sur le cinéma, ou rebondir sur quelque chose qui a été dit
après 5 personnes, j'ai pas grand chose à rajouter. Je peux juste dire que on va revenir rapidement sur le débat de savoir si les spectateurs sont curieux d'aller voir des films différents, donc le débat sur la critique de cinéma, etc. Les gens, même si vous parlez des cahiers du cinéma, les 3/4 des gens ne lisent pas les cahiers du cinéma.
Les 3/4, t'es gentil. Hein.
95% des gens ne lisent pas les cahiers du cinéma.
Les 3/4 des gens qui nous écoutent ne lisent pas les cahiers du cinéma déjà.
Les 3/4 de la population ne lisent pas tout court. Oui, on aura le même problème avec la littérature. Enfin, on peut exporter ce problème-là en fait, de curiosité intellectuelle sur tout type de support intellectuel.
Mais ça se provoque. Comment ça se fait que années 90-2000, ça a réussi à fonctionner? Pourquoi plus maintenant?
Parce qu'il
y a eu aussi beaucoup de cinéastes américains qui sont inspirés dans leur cinéma de cinéastes asiatiques à l'époque. Ça a créé un effet de mode à partir de aussi.
Parce que c'est vrai qu'avec Matrix et compagnie,
par exemple.
Et pour en revenir au cinéma japonais, tout a été dit. Voilà, merci Victor de m'avoir laissé parler en dernier.
Je pense que pour la prochaine fois, tu seras la première promis.
Je pense qu'il manque une figure mythologique. Je reviens toujours à Tarantino.
Non.
À Kitano. Mais Kitano était une figure mythique dans les années 90. Et je pense qu'il y a eu une envie très massive à ce moment-là d'être un peu, je vais pas dire dans le coup, mais je sentais qu'il y avait quand même une envie de la part de la cinéphilie, pas seulement européenne, de s'intéresser beaucoup à ce cinéma.
Est-ce qu'on n'était pas aussi dans une recherche de nouveautés? On s'est dit, enfin la critique de l'époque s'est dit, il y a une nouveauté dans le cinéma asiatique
en général. Ouais.
Alors là, on va essayer de rester sur le cinéma japonais parce que si on parle du cinéma de Hong Kong, etc., ça va être on va vraiment déborder. Mais en tout cas, oui, il y a une nouvelle vague qui s'est créée là-bas et cette envie de dire, il y a quelque chose qui se crée avec Tsukamoto Kitano, Kurosawa, Miike un petit peu plus tard et d'autres. Qui était quelque chose de complètement neuf. Donc c'est aussi des effets de vague, de mode critique, qui vont créer un espèce de cercle comme ça, parce que si la critique s'y intéresse, des distributeurs vont se dire, il y a quelque chose qui se crée là-dedans, on parle de tel film en festival, donc ça vaut peut-être le coup de le distribuer, et le grand public va s'intéresser à ces films parce qu'ils sont aussi distribués, donc ça a créé une impulsion, parce que c'était neuf. Est-ce que c'est pas aussi parce que, effectivement, comme tu le dis, on manque de nouveautés sur le cinéma japonais. Il n'y a pas une lassitude qui s'est créée par rapport à ça.
Mais le réalisateur de Love Hotel, comment il s'appelle?
Hiroki.
Je le découvre, ce gars-là, mais je trouve qu'il est extraordinaire, par exemple. Mais
en 2004, il avait fait Vibrator, qui est aussi un très grand film pour la période...
Mais ces films ont été distribués en France?
Apparemment, il a 40 films derrière.
En 2006, De Ville Asia lui a consacré une rétrospective. Je crois qu'ils ont passé 5 ou 6 films. Mais c'est tout. Voilà, le mec, il est sous les radars. C'est vraiment un cinéaste qui marche uniquement sur le marché local.
Il finira à la Cinémathèque, quoi.
Il pourra en parler avec François Roger, quoi. Mais voilà.
Parce que c'était l'occasion, s'il y a déjà eu une rétro, ça pouvait lancer le mouvement. Puis...
Donc on en revient à cette problématique-là, qui est que finalement, ces figures un peu locomotives, on va dire, on peut les créer. C'est le rôle de la critique qui les crée. On peut élire tel cinéaste qui peut être très intéressant et essayer de les mettre en avant.
Et puis dans le sillage,
on en revient au fait que c'est ce rôle de passeur, de défricheur qui fait peut-être défaut et peut-être pas de figure intéressante dans la production japonaise d'aujourd'hui.
En tout cas, ce qu'on peut attendre prochainement, c'est en 2016, ils doivent sortir le film d'animation de Shunji Iwai, il me semble, c'est animé, qui est censé le distribuer. Alors, il doit y avoir une sortie salle, donc c'est sûrement une sortie technique, mais en tout cas, je crois que c'était. Ils en parlaient en tout cas à l'époque de Misoku, c'est vrai qu'ils avaient acheté les dents.
Mais l'animation, j'ai l'impression que c'est encore autre chose pour la distribution.
Oui, mais je sais, enfin, Shunji Iwai, s'ils arrivent à distribuer ça, ils vont peut-être faire, ne serait-ce que commencer à. C'est Anna et Alice, parce que en réalité c'est la préquelle d'un film qu'il avait réalisé il y a déjà 5 ou 6 ans ça. Et puis peut-être se plancher un peu plus sur ses autres films, quoi, sur le Day Better Die et des choses comme ça qui sont absolument extraordinaires.
J'ai l'impression qu'au niveau du marché du film d'animation japonais, comme beaucoup se plaisent à le dire, on est le deuxième pays à consommer le plus
sur l'animation,
sur le manga au moins. Et j'ai l'impression que, comme on a vu, Gaumont a acheté les droits de. Du garçon et la bête, on a l'impression qu'il y a peut-être de plus en plus de ce côté-là de grosses.
De toute façon, le garçon et la bête va vraiment être aussi une épreuve et un marqueur assez important. Si le film est un grand succès,
peut-être que
ça dépasse les enfants loups.
Ouais, d'ailleurs, c'est peut-être un mal pour un bien la fin de Ghibli. C'est peut-être un mal pour un bien parce que ça permettra de voir sortir d'autres choses que. Parce qu'il y avait des choses qui auraient mérité le dernier Makoto Shinkai, enfin pas l'avant-dernier. Ça aurait mérité une sortie seule largement.
C'était Voyage vers la carte, sorti en DVD.
Je pense que ça va être un test pour savoir si en dehors des films Ghibli, ça peut fonctionner.
Mais c'est déjà arrivé, les enfants loups.
Oui, ouais.
Oui. Mais est-ce que ça fait quel chiffre?
Ça a fait au moins...
Ça a
dû approcher
par rapport
au
nombre de salles, c'était...
Ça a dû approcher le
million. Je crois qu'en moyenne, ils étaient à plus de 200 personnes par salle.
Si ça marche à nouveau,
c'est vraiment le bouche à oreille en plus, là, c'est sorti...
Mais Misoku Sakai a bien fonctionné aussi, hein. Sur la page Facebook, de temps en temps, je vois, il le joue encore dans certaines salles en province et tout ça. Apparemment, il a dépassé les espérances qu'ils avaient fixées.
C'est peut-être pas l'animation où il faut s'inquiéter.
Non.
Il reste ce public.
Est-ce qu'on voit qu'il y a des cinéphiles, il y a 10 ans, qui auraient dit que le cinéma afghan, ça serait à la mode comme ça a pu être. qui suffirait de.
Après, faudra voir pour le Garçon Lagotte, par exemple, faudra voir le nombre de salles qui allouent au film. Déjà, ça compte aussi. Faut savoir combien d'exploitants font confiance à ce genre de cinéma.
C'est Gaumont qui disent quand même.
Ouais, déjà, c'est déjà une
sorte de frein. Voilà.
Donc, est-ce que ça va avoir autant qu'un Disney, par exemple, puisqu'ils ont l'air de vouloir vendre ça comme un Disney. Alors, on est très honnête à Disney, mais avec à l'affiche et tout ça.
Oui, mais en même temps, le public du cinéma d'animation n'est pas le même public que pour les films live. Je veux dire, le public du cinéma d'animation, c'est la plupart du temps les adolescents qui justement regardent des animés et connaissent déjà l'univers de.
Ils commencent à voir des adultes. J'ai des adultes.
Parce que justement, il y a des trentenaires, quarantenaires.
Oui, mais
c'est. La génération de Dorothée,
exactement. Et qui maintenant emmène leur enfant.
Mais voilà, justement, les adolescents d'aujourd'hui qui baignent dans les animés, qui regardent les animés tous les week-ends ou toutes les sorties hebdomadaires, suivent ce genre de
films. Et des films grand public comme Les Enfants Loups, même des gens qui ne sont pas fans, j'en ai vu qui y allaient parce que c'était.
Mais c'est là, pour qu'un film ait un succès, on ne peut pas se baser sur une fanbase pour que les enfants loups marche, il faut que ça, ça touche vraiment tout le monde.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent, enfin, qui aiment l'animation japonaise sans savoir par qui c'est produit, sans savoir qui est le réalisateur. Ils savent juste en fait, ah bah c'est un film d'animation japonais, j'aime bien, j'aime bien Miyazaki.
Par simple goût.
Donc on va aller voir. Je sais pas qui c'est qui l'a réalisé, c'est peut-être Miyazaki, c'est peut-être pas Miyazaki.
C'est vrai que les Ghibli ont rendu ça très grand
monde ressortir Akira.
Et en fait, et c'est pour ça qu'ils disent, ils savent que c'est du cinéma d'animation japonais.
Et c'est peut-être aussi pour revenir sur le cinéma live traditionnel que des films comme ceux de Naomi Kawase ou de Kurosawa continue à sortir en France alors que des films beaucoup plus grand public au Japon ne sortent pas, parce que pour le grand public ils sont identifiés comme des films comme des films japonais, c'est-à-dire avec cette espèce de tranquillité côté zen, de côté très exotique, et c'est finalement les seuls films qui continuent à nous arriver. Kore-eda, on pourrait dire la même chose, hein. C'est indépendant de la
qualité des films. Je sais pas où ça en est, mais par exemple on sait tous que le manga L'Attaque des Titans un succès énorme, même en France. Et le fait qu'ils ne pensent pas, qu'il y ait des distributeurs qui ne pensent pas à un moment essayer de au moins le sortir au cinéma.
Oui, mais en fait, à l'époque, ils ont essayé de sortir 20th Century Boy.
Mais ça n'a pas. En France, ça n'a pas autant de succès que L'Attaque des Titans.
Kazé avait sorti Death Note. Death Note, c'était énorme. Oui. Je sais pas, 2006-2007.
Mais ça reste. Death Note, ça reste dans un type de. Évangélion, bref. Ça reste quand même un type de manga très particulier. L'Attaque des Titans, c'est quand même plus large comme.
Je sais pas, moi je connaissais pas avant L'Attaque des Titans. Ouais, mais
une autre série, Genshin le Vagabond, ils ont sorti une trilogie de films qui sont vraiment très bons. Quoi. Ouais, vraiment, j'ai acheté les Blu-ray anglais, ils sont vraiment de très bonne qualité. Oui. Ça sort pas, et pourtant. On sait que Metropolitan a les droits. Et
ils s'assurent. C'est Metropolitan, donc
c'est
pas très étonnant. C'est pour éviter que les autres aient les droits.
Voilà,
exactement.
Ça. Ils l'achètent et après ils les ont.
Merci à Lida encore. Hein.
Voilà,
on va se faire des amis.
On sait très bien que ça fonctionne comme ça.
Et en plus, le manga reste, même aujourd'hui, il reste encore très populaire en France.
Oui. Et souvent réédité par chez Glénat, donc voilà. Hein.
Bon, très bien. Je pense que on va dérouler de toute façon toutes ces thématiques. Mais avant de reparler donc, et de dérouler tous ces fils, et plonger dans le bilan de Kinotayo plus précisément, nous allons faire un petit point sur l'actualité du cinéma japonais de ces derniers mois. En commençant par une triste nouvelle, puisque nous avons appris récemment le décès de Setsuko Hara. Et nous voulions lui rendre un petit hommage. Martin, est-ce que tu peux nous dire qui était cette grande dame du cinéma japonais?
C'est une grande dame, c'est vraiment la reine du cinéma japonais, si ce n'est l'une des plus grandes actrices du cinéma tout court. On l'a considérée un peu comme la Garbo japonaise, parce qu'elle a quitté le milieu de manière assez brutale. Faut bien savoir, c'était pas une enfant star, mais elle a commencé très très tôt au cinéma. Je crois que son beau-père travaillait de la Nikatsu, et donc il a proposé de se joindre à des castings, et elle a commencé assez tôt dans des films assez populaires. Et elle a été embarquée assez jeune dans une coproduction entre le Japon et l'Allemagne. C'est-à-dire dans des années un peu noires où la Seconde Guerre mondiale commence à se dessiner. Et donc elle a tourné une partie, elle a fait une partie du tournage en Allemagne, et elle s'est retrouvée malencontreusement dans une soirée à l'ambassade du Japon, et je crois que c'était avec Goebbels qui était là, enfin tu vois, voilà. Donc elle avait 16 ans, elle comprenait pas trop ce qui arrivait, mais elle a senti quand même qu'il y a quelque chose qui allait pas. Et elle est partie en France, après ce que j'ai lu, parce qu'on sait assez peu de choses sur elle. Hein. Et elle avait rencontré Julien Vivier, donc ils ont fait pas mal la bringue et tout ça. Elle a fait, je crois, un petit tour, après elle est aux États-Unis, et ensuite elle est revenue, comment dire, au Japon. Elle a recommencé à tourner pour des productions, et notamment elle a travaillé avec Kurosawa, donc Je ne regrette pas ma jeunesse, qui est sorti chez Wasabi Video. Donc voilà, un film absolument à découvrir, qui est en Blu-ray, hein, donc voilà, je fais un peu de pub, mais ça vaut le coup, vraiment. Et voilà, au fur et à mesure, elle a commencé à prendre de la grandeur, elle a continué à tourner l'actu Kurosawa, elle a joué dans L'Idiot, l'adaptation Tolstoy, si je ne me trompe pas. De Dostoïevski, ok, excuse-moi. Et je crois que la film notation Tolstoy aussi. Donc voilà, pour le coup, là, je joue presque à contre-emploi parce que je joue la vamp. C'est un rôle dans lequel on l'a très peu vu. On l'a vu aussi dans un film de Tadashi Shimai. Elle a joué avec les plus grands, elle a été avec Mickey Lenroussé.
Quand tu parles de contre-emploi, on l'a aussi souvent vu chez Ozu.
Oui, ben justement, j'allais y venir. Voilà, c'est-à-dire que Ozu, voilà, l'a consacré dans le rôle de la fille, enfin du moins la femme parfaite japonaise. C'est-à-dire la fin de l'après-guerre, voilà, elle incarnait cette espèce de jeunesse, toujours un peu à contre-courant des idées de ses aînés, qui étaient bon, ben voilà, il faut vite la marier et tout ça. C'était une espèce de rébellion passive, mais très touchante. Il faut bien savoir, c'est que Ozu est un cinéaste qu'on a découvert en France très tard. C'est-à-dire qu'on l'a découvert près de 20 ans après sa mort.
Au début des années 80.
Voilà, exactement. Et on l'a découvert avec un film qui était Voyage à Tokyo, dans lequel elle incarnait justement la belle-fille du couple de petits vieux qu'on suit dans le film. Et voilà, elle est veuve, son mari est mort durant la guerre. Mais elle a toujours cette espèce de sentiment de piété familiale et de respect envers justement sa belle famille. Et elle est la seule d'ailleurs justement à avoir cette espèce de sentiment pour ces deux charmants couples de vieillards. Alors que bon, leurs enfants légitimes se bataillent pour avoir les. comment dire, l'héritage. Donc voilà, elle a cette espèce de clarté lumineuse qui est vraiment. On tombe amoureux d'elle à chaque plan. Quoi.
C'est assez étonnant parce que chez Ozu, effectivement, elle a à la fois ce côté très respect des traditions. Elle se fond effectivement dans cette idée qu'on peut se faire de la femme japonaise, vraiment entre beaucoup de guillemets. Et en même temps, puisque c'est elle qui va soutenir le couple de personnes âgées dans Voyage à Tokyo. Et en même temps, elle a cette opposition dont tu parlais avec les traditions, c'est-à-dire qu'elle représente aussi la jeune fille de l'après-guerre qui s'émancipe aussi d'une certaine manière de ses traditions, mais toujours en restant dans un respect et dans une dignité tout à fait marquée. Et arrive à jouer de ses codes dans. Alors je crois que c'est dans Printemps tardif ou Été précoce. Je mélange toujours.
Oui, c'était toujours des.
C'était un peu Été précoce, je pense qu'on joue la jeune fille célibataire que les parents cherchent à marier.
Exactement, c'est son père cherche à la marier, et en fait elle va tout faire pour trouver une solution, pour régler le problème, mais elle ne veut pas abandonner son père qui se retrouverait seul.
Il y en a un où je me souviens, c'est. Je crois qu'il y a un problème, il y a sa petite sœur qui va se marier, et logiquement c'est l'aîné qui doit se marier avant. Et donc il faut qu'elle trouve, on va être un mari, et finalement, bon, voilà, je crois que c'est le seul film où on finit par la voir, avec l'habit traditionnel de mariage, et là c'est très très émouvant. Et par contre, il y a un autre rôle, je me demande si c'est pas Auton... je comprends toujours tous les titres des Ozu, pourtant je les ai tous vus, malheureusement.
Malheureusement.
Malheureusement, alors c'est un de mes favoris. Non, mais je dis malheureusement, j'arrive à me rappeler des titres des films. Voilà, mais voilà. Fort heureusement, je les ai tous vus et je suis très heureux. Il y a toujours une saison, voilà, je rame. Allez hop, c'est parti. Mais par contre, il y a un autre film, si je me trompe pas. où justement elle est mère et elle est veuve justement, et sa fille veut absolument qu'elle se remarie. Elle a trois prétendants et finalement il y en a un qui lui plaît plutôt.
Les trois amis
d'enfance, exactement. Mais finalement, elle préfère rester fidèle à son défunt mari et lui refuser. Voilà.
Et elle imagine un mariage pour que sa fille, elle, puisse s'émanciper, se marier à son tour. Donc c'est vrai qu'elle était très représentative de cette évolution des mœurs. À la fois chez Kurosawa ou chez Ozu d'ailleurs, de la société japonaise d'après-guerre, et elle l'a représentée jusqu'aux années 60 en fait.
Exactement, il faut bien savoir c'est qu'elle a quitté le cinéma quand elle a appris la mort de Ozu, ils avaient une relation amoureuse secrète, c'est-à-dire que Ozu ne faisait jamais mention à ses carnets de sa relation à Setsugura. Il faut savoir, c'est qu'à cette époque, Setsugura était l'actrice la mieux payée au Japon. Et tous les grands cinéastes la voulaient dans leur film. Et donc, à la mort de Ozu, elle a décidé subitement d'arrêter la profession. Et elle s'est retirée dans la ville de Kamakura, où reposaient justement les cendres de Ozu, près du temple, justement, où se passe le film Kakemomi. Voilà, pour revenir à la boucle. Kamakura, qui est aussi la ville où se déroule le dernier film de
notre
petite sœur Koreeda. Donc voilà, et elle s'est retirée là-bas près de son amant défunt,
elle est morte jusqu'à 95 ans.
Elle est morte à 95 ans, exactement.
Ouais, c'est voilà.
C'est exactement. On a appris sa mort 3 mois après.
Oui, exactement. Mais ça, c'était
en septembre. En septembre, on l'apprend.
Fin novembre.
Mais c'était selon ses souhaits, apparemment. Elle avait demandé à son...
Elle voulait peut-être quoi, que sa famille... le temps de laisser le deuil à sa famille avant.
Exactement.
C'est ça.
D'accord. Et alors, j'aimerais dire que le plus bel hommage à Setsukohara est celui que lui fait Satoshi Kon dans le film Millennium Actress.
Oui, oui,
qui est justement inspiré de la vie de Setsukohara et de sa relation.
Et de ce film aussi.
Et de ce film également.
Bon, la transition va être difficile, vu que je voulais qu'on parle du trailer, qui est même pas un trailer, qui est un petit teaser d'une trentaine de secondes, de Godzilla Résurgence, qui est le nouveau film de Godzilla, donc comme le titre l'indique, et aussi et surtout d'Hideaki Anno. Kefren, est-ce que tu peux nous présenter ces 30 secondes qu'on a pu voir du film?
Est-ce que tu peux nous décrire le trailer?
Le teaser, on ne voit rien.
Le teaser, justement, reprend l'écho du fan footage et nous met en immersion dans une foule qui court, qui justement, on suppose qu'ils essayent de fuir soit Godzilla ou l'un de ses ennemis. Et justement, ce trailer met en avant la volonté de Anno et Higuchi de vouloir concurrencer les Américains en modernisant Godzilla le plus possible, justement en proposant des points de vue... que justement les Godzilla classiques ne proposaient pas de la sorte. Donc une sorte de fan footage que met en avant.
Parce que c'est intéressant, on est plus dans une promotion qui commence un peu à la Cloverfield que ce qu'on avait pu voir pour Godzilla Final Wars de Kitamura, qui était plutôt classique dans sa modernité il y a quelques années, qui était le dernier.
Justement, après celui de Gareth Evans, le Japon ne peut plus se permettre de faire des Godzilla à l'ancienne. Il faut à tout prix se moderniser, et c'est pour ça que Anno et Higuchi choisissent, enfin, ou du moins...
C'est Gareth Edwards.
Oui, Gareth Edwards. Gareth Evans,
c'est Zored. Zored.
Moi aussi, je dis toujours Gareth Evans.
Et donc, oui, justement, Anno et Higuchi et leur équipe, justement, doivent jouer contre cette version américaine, et donc doivent moderniser à tout prix Godzilla, justement.
Ce que j'aime beaucoup dans ces 30 secondes, c'est qu'on reconnaît tout de suite le style de Anno, qui a fait quelques films, qui n'a pas fait que Evangelion, qui a fait quelques films live.
Love and Pop.
Ouais, mais il y a toujours ce côté très expérimental, très, très chercheur dans les nouveaux médias, les nouvelles manières de filmer ces films. Donc il y a ce côté un peu expérimental et défricheur qu'on retrouve dès ces 30 secondes de Godzilla. Elvire ?
Juste pour compléter, en fait, il faut savoir que le film est co-réalisé par Anno Hideaki et aussi Higuchi Shinji, qui a travaillé sur Attaque des Titans. Et pour revenir, en fait, à cette envie de dépasser le Godzilla d'Edwards, en fait, il faut savoir que la promotion avant le teaser, le premier teaser, a été faite notamment sur la taille de Godzilla, qui sera plus grand, attention, que celui dans le film de Gareth Edwards, soit plus de 108 mètres. Wow. C'était quand même le détail très important qu'ils se sont sentis obligés de mettre en fait dès les premiers éléments qui sont sortis sur le film.
Ouais. Alors ça fait penser à la croche.
C'est juste pour dire, on fait plus, on fait mieux. Mm.
Enfin, on ne va pas trop bien le voir en full footage, hein, la grande taille.
Non, mais
c'est
pas
le full footage.
Hein. En fait, ils vont juste fumer le pied et vont dire mais il fait 120 mètres.
Waouh, ouais.
On voit juste le pied, mais on vous le dit.
Ouais, voilà. Vous le répétez pendant tout le film. Écoutez, à vous rappeler une chose, c'est que l'accroche du film du gosier de Roland Emmerich était size does matter.
Ah oui, la taille.
Ça compte toujours.
Ouais. Et justement,
sur ce nouveau,
on apprend que en fait les membres de Gainax, du studio de Hideaki Anno, qui est à l'origine de Evangelion, Fooly Cooly, etc., travaillent aussi sur Godzilla. Donc ce sera une espèce de Godzilla estampillé Gainax. Et donc, comme on connaît leur goût pour l'expérimentation et les introspections et le méta, on peut s'attendre à ce que ce Godzilla soit un Godzilla d'avant-garde, si on peut dire.
Bon, on espère en tout cas. Et l'autre chose intéressante dans ce trailer, ou plutôt dans cette sortie, c'est que le film va sortir en juillet au Japon, qui reste aussi au Japon, la période des blockbusters. L'année dernière, on avait eu l'attaque des Titans. Et c'est vrai qu'on voulait un peu aussi parler des blockbusters japonais, parce qu'on va arriver à Kinotayo dans quelques instants, et Kinotayo s'intéresse plutôt au cinéma indépendant, et c'est important de faire un peu un point sur ce qui marche au Japon, et notamment énormément d'adaptations de mangas. Alors Godzilla n'en est pas une, l'Attaque des Titans, qui était le gros blockbuster en deux parties de l'année dernière, en était une. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut un peu donner son avis sur ce raz-de-marée d'adaptation, Nicolas.
Moi, enfin, je ne peux pas trop donner mon avis là-dessus, parce qu'il faudrait que je les voie déjà, les films, et qu'on y ait accès à un moment ou un autre.
C'est vrai que ce sont des films qui arrivent forcément en France par des systèmes légaux.
Voilà. Et puis, je n'ai même pas cherché à essayer de passer par d'autres systèmes pour les voir, parce que moi, j'aime bien voir des blockbusters au cinéma, à la base. Donc, en général, c'est mieux. Et voilà. Donc, moi, je ne me réfère qu'aux échos que j'en ai, qui sont pour la plupart décevants, forcément. Enfin, pour moi, dans ce genre de film blockbuster de 1h30-2h, quand tu adaptes un manga qui s'étale sur plusieurs épisodes, voire plusieurs tomes ou plusieurs épisodes quand il s'agit de l'anime, moi c'est toujours difficile. C'est au niveau narratif, on sent qu'ils veulent toujours en mettre un peu trop, de ce que j'ai vu moi, toujours, et qu'ils veulent en mettre beaucoup plus que c'est possible avec le format, donc c'est toujours un peu bordélique, et on n'a pas vraiment, j'ai jamais eu vraiment l'impression de pouvoir m'attacher à certains personnages ou pouvoir vraiment me plonger dans l'univers dans les adaptations par rapport aux mangas, aux animes.
Alors que bizarrement, les adaptations animées, quand ils font des grosses adaptations animées pour des films de cinéma, ça marche mieux de choisir un angle.
Ça dépend, même Albator, enfin moi Albator, j'avais été déçu justement parce que c'était vraiment foutraque, je trouve, narrativement.
Moi je dis que ça dépend les adaptations de manga, car quand il y a un cinéaste derrière, ça fonctionne la plupart du temps. Sion Sono, une fois sur deux, adapte un manga en fait.
Exactement, donc, on a parlé de Koreeda qui adapte un manga,
ça
Virgin Psychic dans quelques minutes, donc qui est aussi une adaptation de manga. Après, le problème qui peut se poser, c'est que le cahier des charges par les studios et par les éditeurs aussi, parce qu'ils ont des contrats extrêmement précis sur ce qu'ils ont le droit d'adapter, sur ce qu'ils ont le droit de réécrire, sur la fidélité, peut aussi poser problème aux réalisateurs. Donc là, j'ai envie de poser une question un peu générale. On sait que là, Takashi Miike va faire deux grosses adaptations qui sont Terraform Mars et L'Habitant de l'Infini, donc deux mangas plutôt intéressants. Est-ce que vous pensez justement que la Miike peut encore apporter une patte particulière à ces adaptations?
Ben moi je pense que pour Terraform Mars, c'est pas vraiment que Miike puisse apporter une patte à l'adaptation, c'est qu'en fait le manga de base, le matériau, correspond à Miike en tant que cinéaste. C'est ultra violent, ça parle de conflits, de guerre entre des astronautes nord-saliennes, etc. Et que ça correspond déjà à la filmographie de Miike, donc c'est la personne parfaite pour réaliser le film en fait.
Mais il a pu s'effacer déjà quand il fait un Crow Zero. Ça a peu de rapport avec sa filmographie personnelle.
Justement, ça n'a pas peut-être de rapport avec sa filmographie personnelle, mais ça a de rapport avec Mickey en tant que, enfin lui-même en tant que personnage, car il aime la moto, etc., être libre. Et justement, les personnages de Yankee qu'il décrit dans Coup Zéro, c'est une partie de lui, en fait, les rebelles, etc., c'est une partie de Mickey. Donc on peut avoir, c'est une logique un peu auteuriste de Mickey de faire ce genre de film, en fait.
Martin ?
Moi, je connais pas du tout Terraformers, donc je peux difficilement porter de jugement. Par contre, pour l'habitant de l'infini, là, pour le coup, je suis assez curieux de voir ce qu'il peut donner. Quoi. Parce que, bon, j'ai lu les 15 premiers tomes, je vais t'arrêter là, parce qu'il est arrivé à un moment, il y a comme une scène, enfin, sur plusieurs tomes, une scène de torture qui s'éternise un peu, c'est un peu hardcore. Je reviendrai plus tard là-dessus. Mais en tout cas, oui, je pense qu'après la réussite vraiment formelle de 13 Assassins, je le vois très très bien réaliser ce type de film. Quoi.
En plus, Habitant de l'Infini a vraiment un style graphique qui est extrêmement original hein, sur le papier oui, voilà. Déjà. Donc la transcription. Il y a eu un animé de l'Habitant de l'Infini qui était très mauvais. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vrai que la transcription cinématographique. Voilà, mérite une en tout cas une patte ou une touche ou un style assez
oui il faut pas que tout qu'ils fassent les acteurs à mèche parce que sinon c'est pas bon quoi. Quelque chose un peu plus réaliste
ils ont tous une mèche,
ça dépend quel est le nombre d'idoles
oui voilà
qui est imposé par la production.
Mais enfin, en tout cas il faut que ça soit poussiéreux, un peu dégueulasse, voilà, il faut qu'il y ait des taches de sang sur le kimono. Takashi
Miike a aussi fait Ice Attorney il me semble. Ah oui. Enfin, au niveau des mèches, des coiffures.
Oui, voilà. Voilà. Dans l'espèce de compromis, c'est pas Mickey qui l'a fait, mais pour en revenir à ça, Kenshin le Vagabond, ils avaient réussi à trouver un espèce de un compromis qui fonctionnait plutôt bien. Quoi. Il y avait un ou deux personnages, bon, il y en a un qui était un bon père oxydé, à cette époque-là, c'est juste pas possible. Voilà.
Paye ton compromis, quoi.
Voilà. Non, mais voilà, c'est, tu disais, merde, ils ont raté quelque chose sur celui-là. T'as l'impression qu'ils voulaient vraiment faire plaisir à leur fanbase. Mais pour le reste, ça passait vraiment bien. Et il y avait un hommage vraiment à la mise en scène et le traitement de l'image qui rappelait beaucoup les grands chambaras de la Daé. Et puis, un côté beaucoup plus moderne et. Voilà, et des coupes de cheveux qui rappelaient un peu plus les chanteurs de K-pop. Ou, voilà. Mais bon, voilà. Mais tout ça mélangé, juste avec le bon dosage, ça fonctionnait parfaitement. S'il arrive à trouver ce bon dosage, moi je suis pour. Hein.
Et après, on en revient aussi à cette problématique. Donc, Metropolitan, si tu nous écoutes, si quelqu'un de Metropolitan nous écoute, on attend la sortie, vu que c'est eux qui ont les droits de la trilogie Kenshin, donc des films. Mais qu'il y a énormément d'adaptations de manga. On peut regarder le box-office, hein, sur notre rubrique box-office, il n'y a pratiquement que ça qui marche avec des adaptations de drama sur le box-office japonais. Il y en a très très peu qui nous arrivent.
Très peu, quasiment pas. Hein.
Quasiment pas, ouais. Actuellement, il n'y en a aucune à part voilà, s'il y a un nom qui y a traduit.
T'imagines s'ils décident d'adapter One Piece un jour ? Le bordel, je le savais.
On verra.
Et, faire.
Et l'autre. L'autre courant qui est en train de se mettre en place sur les studios hollywoodiens, on en avait parlé il y a deux mois, il me semble, avec des nouvelles de l'adaptation d'Akira sur laquelle s'était greffé Christopher Nolan, c'est que Hollywood aussi achète en masse des licences, de manga et donc des licences japonaises. On attend de voir ce que ça donne. Je sais que vous êtes déjà beaucoup à penser que... Donc, ça va pas forcément donner un très bon.
Nous sommes sceptiques. Voilà.
Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que ça dépend du sujet, comme ce qu'on avait dit lors d'un précédent podcast. Par exemple, Ghost in the Shell, c'est tout à fait adaptable.
C'est trop philosophique pour qu'ils puissent s'adapter. Ils vont faire un truc encore très très basique.
Je pense que Ghost in the Shell n'est pas adaptable car la philosophie américaine, même occidentale, fait que. On peut pas concevoir aussi bien, enfin, ce que Mamoru Oshii explique dans le film, par le cinéma américain.
Il y avait même sans être aussi profond, les Matrix, ça allait quand même loin par rapport à la moyenne du blockbuster au niveau réflexif.
Ils sont influencés par Mamoru Oshii, etc. Et ils le font sans concession. Alors que si on adapte Ghost in the Shell maintenant, je pense pas que Il y aurait par exemple les scènes qu'il y a dans Ghost in the Shell où les deux personnages discutent et si tu
décarbes. Si c'est un Nolan, je pense qu'il aurait les coups des franges pour faire ce qu'il veut.
Je vais juste rappeler quelque chose, il devrait y avoir Scarlett Johansson.
Après, ça c'est autre chose.
Il devrait y avoir Scarlett Johansson dans Ghost in the Shell. Sylvie, qu'est-ce que tu penses
de ça? On parle de Scarlett, on parle de.
Bah oui, c'est un peu logique.
Ghost in the Shell.
Scarlett Johansson dans Ghost in the Shell, ça serait en droite ligne en tout cas de ce qu'elle a proposé. Ces dernières années, des rôles un petit peu tournant autour de l'hybridation. Donc maintenant, reste à savoir.
Surtout quand on voit Under the Skin, si on devait choisir une actrice occidentale.
Ah oui, j'ai l'impression.
Je vois qu'elle, quand on voit ce qu'elle fait dans Under the Skin, c'est une actrice parfaite pour en tout cas pour essayer en adaptation occidentale.
Ou dans Lucie de Luc Besson, par exemple.
Aussi.
D'ailleurs,
c'est pas elle la pire à blâmer non plus. Il y a des choses.
Alors, après, la chose qui peut être intéressante dans ce jeu qui est qu'Hollywood va adapter des mangas, qui est que le Japon adapte aussi énormément de mangas, qui peut avoir une double influence, comme on vient d'en parler avec Godzilla, de ces nouvelles adaptations de mangas sur l'industrie du cinéma japonais, voire sur la distribution qu'il peut y avoir, et amener des nouvelles personnes à découvrir Akira, Death Note, Ghost in the Shell.
Il fait y avoir Gun, mais il y a quelques années, Cameron, ça s'était pas fait, mais il était à deux doigts.
C'est Rodriguez qui réalise le film.
Ah oui,
voilà, tout de suite, c'est moi le voilà,
on a Robert Rodriguez sur Gun, donc qui est aussi annoncé.
Mais ça peut attirer les gens vers.
Mais là la douche froide là.
Peut-être.
On rappelle que le mec il fait un troisième épisode avec Machete dans l'espace. Donc,
Mais
honnêtement, par exemple, on a eu en France là, comment ça s'appelait l'adaptation qui l'adaptation qu'il y avait
De Taniguchi.
Oui, c'était un très beau film.
Et Granny Freeman par Christophe Gans.
Attendez, parce qu'on parle de deux choses. Donc, Granny Freeman par Christophe Gans d'un côté, qui est vraiment l'adaptation geek. Et je ne me rappelle plus du titre ouvrage de Taniguchi.
C'était une belle réussite. Ils l'ont bien adapté à la culture française, au paysage français. C'était un très beau film. La preuve que c'est fait, alors que c'est quand même assez typiquement japonais. Et ça a donné quand même un très beau film.
Que Taniguchi fonctionne en France et pas au Japon. Faut dire aussi, voilà.
Mais je veux dire, en tout cas, le manga, c'est quand même assez typé japonais. Ils ont réussi à rendre comme quoi, c'est pas impossible non plus.
Nous allons donc
de Nagata Chaos qui sera adapté en France avec Romain Duris et je sais plus qui.
Oh mon Dieu.
Le chaos de Nakata sera adapté en France avec Romain Duris et je sais pas.
Mais c'est vrai que dès qu'on annonce une adaptation de manga.
Avec Romain Duris, c'est
pas bizarre. C'est Nakata, le film de Nakata de 90.
Enfin voilà, au Japon, en France ou à Hollywood, on est toujours très très sceptique par rapport aux résultats que ça peut donner. Et à juste titre. Après, moi, honnêtement, j'attends de voir ce que va faire Hollywood. Qui semble arriver à une fin de cycle, en tout cas ils ont prévu sur 2020 une fin de cycle sur l'adaptation de comics et qui se recentre sur l'adaptation de manga et l'adaptation de jeux vidéo. Donc on va voir ce que ça va donner.
T'es optimiste pour la fin de cycle 2020.
Moi je suis pas optimiste, j'aime bien l'adaptation de comics. Donc,
t'es optimiste pour voir les adaptations de manga rapidement, parce que ça fait quand même des années que ça traîne. Hein.
Mais on peut pas faire pire que le Dragon Ball de toute façon. Donc,
c'est vrai.
On a touché même pas le fond, mais dans le sous-sol. Vraiment, on a eu
le temps de l'oublier.
J'ai vu l'autre jour pour rigoler.
C'était violent. Donc normalement,
on peut faire Gun, on peut faire autre chose.
C'est vraiment.
C'est pire que tout.
Je sais pas comment on peut avoir. En fait, chaque scène, on se demande comment le scénariste a pu avoir l'idée en même temps.
Même l'adaptation de Hong Kong qui est moisie, là, elle est mieux que ça.
Pardon, mais on n'est vraiment pas dans le même paradigme quand on parle ici maintenant des adaptations d'Akira ou de c'est complètement autre chose que Dragon Ball Evolution sur l'époque. Enfin, les studios ont changé. Les gens qui
achètent. Ça sera un peu plus pris au sérieux.
Qui sont sur ces projets. Sont pas du tout les mêmes, et donc l'ambition n'est pas, pas non plus la même du tout. Quoi. Donc,
pourtant, il y a Chenouk Fat.
Et pourtant, il y a Chenouk Fat dans le rôle de Tortue.
La première merde qu'il a fait à Hollywood.
Sérieux, ça Je veux une femme dans le retour,
tout génial. Tu te rappelles de Bulletproof Monk?
Ah, ça me donne envie. Limite, ça me donne envie, là.
C'est vraiment
un aller sur le même tableau anglais.
Fais pas ça, mec. Fais pas ça.
Oh, j'ai besoin de me. Ouais, de... Si c'est drôle, je crois que.
Involontairement,
voilà, oui.
Salut, nanar.
Waouh.
Alors, la transition avec le nanar est toute trouvée, puisqu'on va maintenant parler d'un des films de cette année de Sonocion, qui est.
On va se faire des amis.
Je crois que tu l'as beaucoup aimé.
The Virgin Psychic, donc, qui était présenté au PIF 2015. Donc, c'était un des seuls films, d'ailleurs, japonais, voire le seul film japonais avec le garçon et la bête, la nuit d'animation du. Paris International Fantastic Film Festival. Qui l'a vu? Qui veut présenter le film, Martin?
Bon, bah...
T'as bien lancé.
Voilà, écoutez, si vous devez commencer par un film de Sonocion, commencez pas par celui-là.
Vous n'en verrez pas d'autres.
Voilà, exactement. Non, c'est juste une curiosité, voilà, pour les amateurs de cinéma de genre assez déviant. Faut bien savoir, c'est que Virgin Psychic est donc adapté d'un manga que Sonocion a adapté ensuite en série télé. Donc il a fait une saison qui fait à peu près 13 épisodes, si je ne me trompe pas.
Il en a réalisé
6. Il en a réalisé 6 et il en a écrit un peu plus.
Il m'a dit qu'il était déjà en train de télécharger.
Je les ai vus. Voilà, bon.
Un, je
le
télécharge.
C'est.
Et deux, jamais je ne regarderai.
Il n'y a plus.
Voilà, on coupe. Il faut mettre sur ses yeux ça va en vacances quand on voit ça. Hein. Voilà. Parce que de toute façon, quand il arrive, ça parle de personnages dont l'afflux.
Ça présente un peu l'intrigue.
Donc voilà, en gros, faut resituer le contexte. C'est une série et un film qui sont produits par les produits Tenga. Les Tenga, c'est quoi? Ce sont des boîtes à branlettes. Voilà.
Dit, c'est bon, on arrête.
Ah oui, mais
c'est quoi?
Ah, mais t'as besoin de pour hommes!
Ah oui,
bon. Oui, ça existe!
Ça existe!
Ça existe tout à fait!
Exactement! C'est pour ça qu'on voit à tous les plans!
Voilà! Oui. Ils subissent tous les pouvoirs des personnages, c'est bon!
Non, mais alors raconte l'histoire!
Donc, en gros, vous avez une histoire qui s'approche à peu près de n'importe quelle histoire de mutants, X-Men et compagnie. À savoir, bon, voilà, par un. Un phénomène.
Les ambitions de Stanley et Kirby étaient un peu plus.
Ouais, bah tu l'as. Il y a peut-être la même
chose. Tu l'as laissé. Tu l'as laissé.
Tu parles des années 90. Voilà. Exactement. Voilà. Et donc voilà, il y a un phénomène cosmique qui fait que voilà, certaines personnes qui se tripatouillent la nouille durant cette.
C'est joli, mon Dieu. Voilà. Cette chaude nuit, parce qu'apparemment.
Cette chaude nuit, voilà, se retrouve investie de super pouvoirs.
Il faut aller qu'il soit aussi vierge.
Exactement. Voilà. Et moyennant toutes ces conditions, voilà, il se trouve investi d'une mission sauver le monde. Donc voilà. Et en gros, c'est juste un prétexte pour montrer, pour à peu près une heure et demie, un tas
non,
de
grèves. Pratiquement plus de 2 heures.
Oui.
Voilà, 2 heures, des grèves viridoles en petite tenue.
Et des mecs en train de se branler.
Exactement.
Mais comment ça?
Et c'est très drôle.
Non, mais la main dans le pantalon, quoi.
D'accord. Et le film tourne autour de ça.
Voilà,
c'est
ça. C'est insupportable. Ah ouais.
D'accord, non, c'est pas insupportable, c'est très drôle, mais ça va mériter au moins drôle. 45 minutes
non,
de moins.
C'est drôle, d'accord. Mais sur une heure, quoi. Voilà. C'est drôle sur une heure, en fait.
Non, mais...
C'est chiant, à la longue.
Non, mais c'est...
Moi, je me suis marré le premier quart d'heure, après j'étais...
Non, mais le film est beaucoup trop long.
Dépité par le film, quoi.
Non, le film est beaucoup trop long, ça, je l'accorde, mais de toute façon, c'est juste une espèce de récréation.
C'est un délire qui s'est
oui, payé. il s'est fait plaisir à la fille, filmer des jolies mais... japonaises en petite tenue, bon, bah voilà. Moi je suis sensible à ce genre de choses.
C'est un bel argument.
C'était
voilà.
Parce que je suis une nana que j'ai moins aimé, je ne sais pas.
Moi j'ai limite envie de le voir.
Entre terrellement.
Ouais, c'est ça. C'est assez convaincant.
Moi le drama était mieux en fait. Parce qu'en fait il y a une intrigue justement. En fait, l'histoire symbolique de ce truc, c'est le passage à l'âge adulte par l'acte sexuel justement. Et dans le drama. C'est traité alors que dans le film il passe totalement à côté et même justement dans le drama il y a cette espèce d'apocalypse à chaque fois à la fin des films de Science Ono où le personnage est confronté à son plus grand fantasme ou sa plus grande peur etc. Et dans le drama ça fonctionne comme un film de Science Ono en fait pendant tout le long alors que le film justement a l'air d'être fait par je sais pas, n'importe qui au Japon aurait pu faire ce film.
C'est ça, dans les 10 premières minutes, on reconnaît un peu sa patte, notamment dans un montage, comme ça, je crois qu'il y a de la musique classique. On retrouve cette répétition des images. Seulement, après, on a l'impression qu'il est un peu en mode automatique et qu'il recycle quelques idées de mise en scène étirées sur 2 heures. Et c'est interminable.
Pour moi, le principal problème du film, et justement, ça va aussi avec sa longueur, c'est que. Au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. C'est pas la première fois que les acteurs surjouent chez Sonsono. On va dire que dans certains cas, certains films, c'est même ce qui fait le film en fait. Par exemple, dans Jupiter Hell, t'as des acteurs qui surjouent à fond.
C'est
leur mimique qui te font mourir de rire. Alors que là, c'est tellement exagéré. Pas assez inventif au niveau du comique de situation qu'au bout d'un moment c'est plus drôle quoi.
Le jeu des acteurs rejoint aussi un cahier des charges de manga live, d'adaptation de manga avec des poses très caractéristiques.
Il y a un
sous-sens à ce jeu
d'acteur en fait.
Effectivement.
Quand tu vois Shota Sumetani, donc l'acteur principal dans Virgin Psychic, et puis quand tu le vois dans Kabukicho Love Hotel, tu vois l'énorme différence entre un acteur qui surjoue et un acteur qui joue normalement.
Mais c'est en ça que tu retrouves pas le même surjeu qui est bien dans ce dossier, tu retrouves le surjeu qui est extrêmement dérangeant, des adaptations de manga.
Oui, c'est un peu ça.
C'est ce que j'essaie de dire, de toute façon, c'est juste une parenthèse. C'est un truc en plus, voilà, c'est le bonus, tu vois, un peu caché sur le DVD. Mais
voilà. C'est vrai que ça reste le bonus caché sur DVD.
Oui, voilà, mais c'est un petit plaisir coupable.
C'est de la branlette, quoi.
Voilà.
Exactement, voilà.
C'est de la branlette.
Bon, voilà, sens propre.
Le mot de la fin sur The Virgin Psychic.